Deuxième partie, chapitre 3, le château. Le château de Bois-Renault, où l'abbé de Gondy fit sa résidence et que la duchesse de Falaris choisit un instant pour retraite à cause de son voisinage de Rincy, compte encore parmi ses hôtes célèbres le danseur Trenitz, qui eut l'honneur d'y recevoir en 1798 mesdames Tallien et Récamier. À l'époque où se renoue notre histoire, le château et ses magnifiques dépendances étaient, depuis quelques années, la propriété de monsieur le baron Schwartz, qui se proposait d'y faire de nombreux embellissements. Le baron Schwartz était à un esprit net et tranchant, qui ne faisait pas les choses à demi. Il fit démolir le vieux château pour mettre en son lieu et place une maison moderne. En ce temps-là, quand on arrivait le long du canal, et qu'après avoir dépassé le dernier faisceau des futaies, la plaine cultivée se déployait au regard, la première chose qui les frappait, la seule, c'était ce petit castel au profil mutin et cavalier, avec ses six tourelles coiffées à la mauresque et ses trois corps de logis disparates, dont l'un parlait du Moyen-Âge, tandis que les deux autres semblaient raconter quelque anecdote batailleuse et galante de la Fronde. Le parc s'étendait en éventail derrière le manoir et confiné partout à la forêt dont il n'était séparé que par un large saut de loup. L'avenue qui conduisait du château à Vaujour était un rideau de peupliers dont chaque branche valait un arbre de 50 ans. On se souvient encore dans le pays de ce gigantesque mur de verdure et de chênes énormes qui ombrageaient l'allée tournante menant à Montfermeil par les hauteurs de Clichy-en-Launois. Le baron Schwartz, un jour de baisse, avait acheté tout cela très bon marché, sans le visiter en détail et dans un but de pure spéculation. Quand il y vint pour aviser aux moyens d'en tirer parti, le site s'empara de lui du premier coup. Le château seul lui déplut parce que le baron Schwartz était fils du présent qui déteste le passé. Au lieu de morceler ce paradis et de le débiter à 15 sous le mètre pour en faire un de ces aimables séjours où les gens de Paris viennent bâtir des petites maisons délicieuses, avec un entourage comme les tombes au Père-Lachaise, il eut fantaisie de dépenser un couple de millions ou davantage, selon les proportions que prendrait son caprice. Ce n'était pas beaucoup pour lui, sa maison de banque était la rivière du proverbe, où l'eau va toujours. Bien que sa noblesse financière ne remontât pas aux croisades, c'était déjà une vieille fortune solide, sincère, et largement basée sur un crédit européen. On disait de lui qu'il prêtait au roi à la petite semaine. Un palais neuf, voilà ce qui plaît. Un peu le style de la bourse, cela rappelle d'émouvants souvenirs. Donc, à 200 pas de l'ancien manoir, en situation belle et bien choisie, les maçons étaient en train de bâtir le palais. On traçait dans le parc le méandre des nouvelles allées, on comblait le saut de loup pour le reporter plus loin, et enclore 100 hectares de futaie acquis récemment. On battait la glaise au fond du lac déjà creusé. Le soleil allait se couchant derrière les arbres qui cachent au loin le clocher d'Aulnois-le-Bondy, quand notre jeune fille aux voiles noires du bateau-poste se dirigea vers la grille dorée de monsieur le baron Schwartz. Elle suivait l'avenue d'un pas assez rapide, mais mal assurée et presque pénible. À la voir par derrière, vous eussiez dit une convalescente à sa première sortie. Tout en elle, du reste, confirmait cette pensée. La fatigue courbait sa taille gracieuse mais trop grêle, qui ne semblait plus faite pour la robe qu'elle portait. Deux ou trois fois, le long du chemin, elle fut obligée de s'arrêter pour reprendre haleine. L'équipage de trois pattes la rejoignit, quand elle n'était encore qu'à moitié de l'avenue, quoique monsieur Contin de la lourde ville eût déjà fait son entrée. L'estropié la connaissait sans doute, car sa figure ébaucha un sourire, mais il ne lui parla pas en la dépassant. La jeune fille le suivit d'un air distrait et morne. Trois pattes et son équipage étaient entrés déjà quand elle arriva devant la grille. Elle reprit haleine et sa main mit à toucher le bouton une certaine hésitation. « Comme vous voilà maigrée, mademoiselle Aimée, » dit une voix derrière elle. « Parole d'honneur, je ne vous reconnaissais pas. » La jeune fille se retourna vivement, comme si elle eût été prise en faute, et une nuance rosée vint à son pâle visage. « Bonjour, Domergue, » répliqua-t-elle. « J'ai été un peu malade. Comment va-t-on au château ?» Elle souriait, et il y avait je ne sais quoi qui faisait peine dans la charmante douceur de son sourire. Nous connaissons Domergue, l'important valet qui ressemblait à un receveur de la Banque de France. Son entrevue avec notre ami Similor n'avait pas été, paraîtrait-il, de très longue durée, car il avait rejoint la jolie voyageuse en se promenant et sans presser le pas. Mais en affaire, il ne faut pas juger la gravité d'une entrevue par sa durée. Cette fois, Domergue ôta sa casquette et sa figure austère se radoucit notablement. À le regarder mieux, il avait l'air du plus brave homme du monde. Seulement, il savait garder son rang. Il s'agissait ici d'une femme, et personne n'ignore que la galanterie ne fit jamais déroger à un haut personnage. « Un peu malade, » répéta-t-il. « Tout le monde va assez bien chez nous, merci, malgré les démolitions et les tremblements. Vous êtes pâle comme un linge, parole d'honneur. Un peu malade ? Il y a du nouveau ici, vous savez ? Non, Domergue, je ne sais rien. On parle d'un mariage. Avec Monsieur Maurice ? Interrompit Aimé presque joyeusement. Domergue haussa les épaules. Ce ne serait pas un mariage, cela, reprit-il. Le cousin Maurice est en disgrâce comme Monsieur Michel. J'ai bien cru que Monsieur Michel deviendrait notre gendre. Monsieur le baron n'aurait pas dit non malgré la différence de fortune. Mais il se rencontre les impossibilités. Avez-vous sonné, mademoiselle Aimée ? Pendant les dernières paroles du valet, la jeune fille avait changé plusieurs fois de couleur. Pas encore, répondit-elle d'une voix qui tremblait. Puis elle ajouta, pensant tout haut, Blanche, un mariage, déjà ? 16 ans, reprit Domergue en poussant le bouton de cuivre qui mit en mouvement une cloche au timbre sonore et plein. Joli comme un amour, écoutez donc. Les dots de 2 millions comptants n'ont pas l'habitude de moisir en magasin. Monsieur Lecoq est dans la quarantaine, mais beau cavalier. La jeune fille répéta avec stupéfaction. Monsieur Lecoq ? Oui, oui, on dit qu'il a le bras long. Quoique j'aurais cru qu'on aurait pris un banquier, ou au moins un duc. On avait parlé d'un duc, vous savez. Je ne sais rien, répéta la jeune fille. C'est juste. La chose se faisait par monsieur Lecoq. En voilà un qui abat de l'ouvrage. Du reste, tant qu'on n'a pas été à la mairie, n'est-ce pas ? Mais entrez, mademoiselle Aimée. Vous savez que nous sommes de bon monde et pas fiers. Ça va faire plaisir à mademoiselle de vous recevoir. Madame Sicard ! Madame Sicard était une femme de chambre de digne apparence, entre 2 âges, tirée à 4 épingles, qui portait aussi bien que monsieur Domergue, mais qui ne souriait pas. La voix de son collègue l'arrêta comme elle montait le perron. « Tiens, fit-elle, mademoiselle Lebert !» Elle ajouta, non sans une certaine bienveillance, qui chez elle avait beaucoup de prix, « On a justement fait votre chambre aujourd'hui. »« Je viens seulement pour saluer ces dames, » murmura la jeune fille avec un embarras que je ne justifiais point à l'accueil reçu. « Si vous voulez bien prévenir mademoiselle... »« Entrez au salon en attendant, je vais dire qu'on mette votre couvert. »« Mais j'y songe !» s'interrompit madame Sicard. Madame la baronne m'a dit, voyons, que si vous veniez, c'était elle qu'il fallait avertir. Au fait, c'est toujours de même. On avait traversé le vestibule. Madame Sicard monta l'escalier pendant que Domergue introduisait Aimée au salon. La pâleur de celle-ci avait augmenté subitement, et à tel point qu'elle semblait prête à se trouver mal. Elle s'affaissa sur un siège et porta son mouchoir à ses lèvres. Le plus souvent qu'on vous laissera partir à ces heures-ci et dans un état pareil, dit l'honnête valet qui prit, ma foi, ses mains froides et les réchauffa dans les siennes. Vous êtes comme qui dirait de la maison, ma chère enfant. Et j'ai plus d'une fois entendu parler à madame la baronne qu'une maîtresse de piano comme vous, c'était une amie. Un verre d'eau, murmura Aimée. Je viens d'être un peu malade. Domergue sortit aussitôt en courant. Ce n'était pas un septempriseur. Il pensa. Un peu malade? Parole d'honneur, c'est trop pour les uns, pas assez pour les autres. Il y a de la misère dans le fait de cet enfant-là. Cet être délicat et charmant, Aimée Lebert, était pauvre. Son costume pauvre, mais si modeste, ne l'aurait pas dit que sa timidité lui criait. L'idée était venue à Domergue qu'Aimée avait faim. Il se trompait. Le pain ne manquait pas encore chez la mère d'Aimée, quoique tout le reste y manquât. Et si Aimée n'avait pas eu de pain, sa fièvre l'eût nourrie. Dès qu'elle se vit seule, 2 grosses larmes que sa fierté contenait roulèrent lentement sur sa joue. Elle releva son voile et montra un visage de 18 ans aux lignes exquises, mais que déjà la souffrance avait touché. Edmée était à la fois jolie et belle. Vous n'auriez pu voir sans être émue ses grands yeux humides, sous ce front couronné d'adorables cheveux blonds, ce nez fin aux arêtes précises mais suaves, cette bouche, hélas, sérieuse, mais où l'on devinait un trésor de sourire. Et pourtant, ce n'était pas là Edmée. Ce qui frappait en elle et ce qui ravissait, planait au-dessus de tout cela comme une âme, rayon, harmonie et parfum, une émanation presque divine, et que dire de plus, une âme de douceur et d'honneur. Le salon était grand, somptueux et meublé à la romaine. Le regard mouillé d'Edmée en fit le tour et s'arrêta un instant sur le piano. Le piano lui parla, car elle murmura en souriant amèrement « Blanche épouse Monsieur Lecoq ». Au-dessus du piano était un portrait de fillette, une brune, espiègle et rayeuse. « Cela est-il possible ?» ajouta Edmée. « Blanche de cher petit cœur !» Des deux côtés de la cheminée étrusque en marbre violet, ornée de mosaïques et chargée de curiosités pompéiennes, deux autres portraits pendaient dans des cadres, d'une richesse extrême, écrasaient la peinture, bien qu'il fût signé par un des bons maîtres de la restauration. L'un représentait un homme de 25 ans, étroit d'épaule, petit, maigre, au trait intelligent et plein de volonté. L'autre, une très jeune femme, presque aussi belle qu'Edmée, et qui, comme elle, avait son charme dans l'expression plus encore que dans la parfaite régularité de ses traits. Quand le regard d'Edmée tomba sur cette dernière toile, sa prunelle eut un éclair et un peu de sang vint à ses joues. Elle se leva malgré la fatigue extrême qui, tout à l'heure, l'avait jetée sur ce siège. Elle traversa d'un pas pénible toute la largeur du salon et s'arrêta devant la cheminée. Le portrait semblait exercer sur elle une sorte de fascination. Était-ce le portrait? Une partie du portrait, plutôt, car son œil fixé concentrait tous ses rayons sur un point qui n'était pas même le visage, mais qui était auprès du visage. Madame la baronne Schwartz s'était posée de trois quarts. Elle portait un costume d'apparat, un turban, jeté de côté, la coiffée, cachant une de ses oreilles, tandis que l'autre, blanche, fine et ornée d'un simple bouton de diamant, sortait des masses noires de son opulente chevelure. C'était l'oreille que regardait Edmée, moins que l'oreille encore, car l'oreille se voyait parfaitement, et la jeune fille, chose étrange dans son état de souffrance et de lassitude, monta sur une chaise pour examiner de plus près. Pendant plusieurs minutes, elle examina attentivement. Tout son être se concentrait dans sa vue. Elle tremblait et changeait de couleur. Un bruit de pas se fit. Elle redescendit précipitamment, et ses lèvres s'entr'ouvrirent pour laisser tomber ses mots. C'était bien elle. Domergue entra, portant un plateau. « Je vous ai fait attendre, ma chère demoiselle, » commença-t-il. « Donnez !» interrompit Edmée de cette voix sèche et sans vibration qui trahit sa fièvre aussi sûrement que l'accélération du pouls. « Comment vous trouvez-vous ? » ajouta le valet pendant qu'elle buvait à long trait. « Mieux, je vous remercie. Vous êtes si changé, et voyez, votre main tremble. »« Beaucoup mieux, » répéta Edmée avec impatience. « Je voudrais voir madame la baronne sur le champ. Dites qu'on ne prépare pas ma chambre et qu'on ne mette pas mon couvert. » Domergue la regarda étonnée. Il y avait dans ses gros yeux de la tristesse et de la compassion. Il sortit. Pour la seconde fois, Edmée était seule. Elle s'assit auprès de la fenêtre et attendit. Les fenêtres du salon donnaient sur le jardin et gardaient leur jalousie fermée. Edmée Lebert glissa son regard distrait au travers des planchettes et vit les hôtes du dimanche disséminés par petits groupes sur la magnifique pelouse d'où le soleil s'était retiré. Blanche n'était point là, non plus que sa mère, la baronne. Deux dames d'un certain âge jouaient au volant avec une grande affectation de gaieté. Quelques messieurs faisaient cercle autour de Monsieur Contentin de la Lourdeville, qui tenait à la main le journal du soir. Des promeneurs passaient le long du château et causaient. « Je ne vois là-dedans, dit l'un d'eux, rien que de parfaitement honorable. Monsieur le baron se souvient qu'au début de sa carrière, il fut le banquier des pauvres. « Beau métier, fut-il répondu. On gagne souvent gros avec les pauvres. « On peut être à la fois habile et philanthrope, dit Contentin, ça et ça. Il y a des anecdotes étonnantes. J'ai ouï parler d'un indigent qui achetait tous les ans 1 000 ou 1 200 francs de rente. Un mendiant de Lyon, madame, a doté récemment sa fille comme les nôtres ne le sont pas. Et vous connaissez l'histoire de cet aveugle qui avait 50 000 écus dans sa paillasse? Ce trois pattes est un animal fort curieux. Où donc se cache monsieur le baron? Fut-il demandé au fond du parterre. Une fenêtre du premier étage s'ouvrit, et monsieur le baron répondit « Je suis à vous, je termine une affaire !»« Avec trois pattes » acheva-t-on à demi-voix dans les groupes. Edmé Lebert n'écoutait plus. La rêverie l'avait prise. Ses yeux, demi-fermés, s'abaissaient vers le tapis sans le voir, et sa belle tête pensive s'appuyait sur sa main. « Allons un peu visiter l'attelage de ce capitaliste d'un nouveau genre » dit-on encore sous les croisées. La réponse et les gaietés qui la suivirent s'étouffèrent au lointain. L'arrivée du nouveau client avait fait sensation parmi les convives du château de Bois-Renault. Si Trois Pattes était un homme d'argent, il avait naturellement droit à bon accueil, pas de doute à cet égard. Mais l'argent se reçoit à la caisse. Il suffit pour cela d'un commis. Sous quel prétexte Trois Pattes et son grotesque équipage passaient-ils le seuil de la somptueuse villa en ce jour de repos, où le millionnaire n'accueillait que ses amis? Ceci était prétexte à gloser. Le règlement au château de Bois-Renault défendait de parler affaires. Monsieur le baron Schwartz délaissait ses invités pour recevoir Trois Pattes dans son cabinet. Était-ce pour parler politique? Personne ici n'ignorait la légende de Trois Pattes, que les domestiques du baron avaient ordre d'appeler monsieur Mathieu. Trois Pattes était un personnage dès longtemps célèbre dans le quartier de la Porte-Saint-Martin, et ses relations avec monsieur Schwartz étendaient désormais sa gloire jusqu'à la Madeleine. Trois Pattes était arrivé un jour, personne ne savait d'où, dans la cour du Plat d'Étain, siège d'une entreprise de messagerie qui, avant l'établissement des chemins de fer, desservait toute la banlieue de l'Est. Il était descendu de son panier traîné par un chien et s'était rendu à pied, c'est-à-dire en rampant sur les mains et sur le ventre, au bureau. Là, il avait fait le nécessaire pour avoir le droit de s'installer dans la cour en qualité de facteur. Tout de suite après, il manœuvrait ses mains armées de palettes, et le reste de son corps contenu dans une sorte de corbeille munie de roues, il avait pris possession à l'endroit où s'arrêtent les voitures à l'arrivée. Ses commencements avaient été difficiles. Il ne possédait, à vrai dire, aucune des qualités physiques du facteur, mais ses qualités morales y suppléaient largement. À Paris, d'ailleurs, les choses bizarres font fortune. Trois Pattes, marchant avec ses jambes dans sa poche, comme disaient les plaisants du quartier, excita cet étonnement qui précède et prépare la vogue. Il avait installé sur son dos 4 crochets qui lui servaient de main et auxquels il fixait très adroitement les colis. À son côté pendait un sifflet que les cochers de la station du boulevard connurent bientôt. Un coup de sifflet appelé un fiacre, 2 coups une citadine, 3 un cabriolet. Au bout de 8 jours, ceux-ci furent réglés comme si Trois Pattes eût touché les appointements du gouvernement. Pour la garde des objets, il n'avait pas son pareil. Quant aux discussions d'intérêt avec la buraliste, il vous arrangeait vos affaires en un clin d'œil. Vous savez la puissance de certains avocats sur le tribunal. Trois Pattes gagnait toutes ses causes près de madame Tourteau, maîtresse de la cabane où s'inscrivaient les voyageurs et les bagages. Elle ne croyait pas qu'il mit beaucoup de temps à arpenter la cour du Plat d'Étain. Ses mains étaient agiles, et il avait une merveilleuse façon de manœuvrer l'inerte fourreau qui renfermait ses jambes. Son allure ressemblait à celle d'un lézard. Et les lézards vont vite, quoi qu'on ait dit sur leur paresse. Un anonyme de génie lui trouva ce nom, Trois Pattes, qui peignait d'un trait sa lamentable infirmité. Personne n'ignore l'élan prodigieux qu'un sobriquet peut donner à une célébrité populaire. Mathieu l'estropié eut peut-être fait fortune. Trois Pattes fit tout uniquement fureur, et ses collègues vaincus désertèrent la place. Derrière la gloire, 2 divinités viennent, l'envie et la poésie. L'envie sema sur le compte de Trois Pattes ces 1000 bruits qui tuent une faible réputation, mais qui enflent une grande renommée. Elle accusa Trois Pattes d'appartenir à la police, ou de faire partie d'une association de malfaiteurs. 2 allégations dont Paris est souverainement prodigue. La poésie lui prêta la richesse, ce charme irrésistible. Elle affirma qu'il amassait quelque part un fabuleux trésor. On ne croit plus aux sorciers, mais le surnaturel à la vie dure. La poésie fit de Trois Pattes une sorte de gnome, changeant de peau à de certaines heures, et quittant son misérable niveau pour s'élancer vers les sphères dorées de l'élégance aristocratique. Spécifions. La poésie prêta de mystérieuses amours à trois pattes le reptile humain. Ce fut quelque chose comme un de ces contes où Perrault a couplé les monstres avec les princesses. Il s'agissait d'une femme jeune et belle. Jusque-là, rien d'impossible. Mais la femme était aussi noble et riche. Croyait-on à cet absurde rêve? La poésie et l'envie se cotisaient donc pour compléter la gloire de trois pattes. Il n'en paraissait point affolé. Sérieux et modeste, il continuait d'accomplir son mandat avec un soin exemplaire. Il n'était pas mendiant, mais il prenait de toutes mains et remerciait les bourses généreuses qui s'ouvraient à l'aspect de son infirmité. Il ne repoussait pas plus les aumônes que les salaires. Ses mœurs étaient pures malgré la chronique, il vivait seul et sobrement. Et cependant, la chronique ne mordait pas tout à fait. Il y avait assez de vrai sous les broderies légendaires de l'histoire de Trois Pattes pour légitimer tous les étonnements. Trois Pattes était reçu chez Monsieur le Baron Schwartz. Dans l'humble escalier qui grimpait au taudis de Trois Pattes, on avait rencontré, on avait reconnu, une étoile du ciel parisien, la belle comtesse Corona. Telle était la charade proposée aux curieux par le lézard du plat d'étain. Le baron Schwartz, aujourd'hui, était dans son cabinet quand un domestique va lui annoncer Monsieur Mathieu. « Qu'on fasse monter Monsieur Mathieu, » dit-il sans hésiter. Monsieur Mathieu descendit de son équipage sans trop de peine et franchit le perron à l'aide d'une gymnastique originale. Ses deux mains, cramponnées aux marches, allaient son torse et l'appendice qui renfermait ses jambes. Cela se faisait assez lestement, à la grande surprise des spectateurs qui contemplaient sa manœuvre. Au bas de l'escalier, un domestique obligeant ayant voulu soulever la partie paralysée de son corps, Monsieur Mathieu le remercia et lui dit « Inutile ». Néanmoins, après son introduction dans le cabinet du riche banquier, et quand il eut rampé jusqu'à trois pas du bureau, Monsieur Mathieu, poussant un soupir de soulagement, tira de sa poche un mouchoir fort propre et s'essuya amplement le front. « Bien pressé donc, Monsieur Mathieu ?» demanda le baron Schwartz en souriant. Il avait un style à lui quand il voulait, ce baron Schwartz. Les hommes arrivés sont excentriques à peu de frais. Monsieur le baron s'était fait une réputation parmi ceux qui avaient besoin de lui, par la brièveté de sa phrase. Trois Pattes répondit en inclinant la tête avec une respectueuse politesse. « J'avais envie de voir un peu la propriété de monsieur le baron, mais je ne me serais pas permis d'y venir pour mon plaisir seulement. »